Restez avec nous, je vous propose une réécoute ce soir. Very Good Trip, c'est parti.
There she was, just walking down the street singing. She looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Holding my hand just as natural as can be singing. We walked on to my door. We walked on to my door. Then we kissed a little more. Nearly every single day singing. Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing. Well, I'm hers, she's mine. I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna chime.
Dédé, Dédé, c'était le groupe londonien Manfred Mann en 1964, une chanson qui a fait le tour du monde. En France, on la connaît doublement puisque Sheila, et oui, l'a adaptée cette année-là en Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. À l'origine, c'était une chanson écrite par un jeune couple de juifs new-yorkais, hein, Jeff Barry et Ellie Greenwich, et leur spécialité c'était de fournir des chansons à des groupes vocaux noirs, féminins, hein, les girl groups, comme on les appelait, qui les enregistraient sous la direction du très jeune et brillantissime réalisateur artistique Phil Spector. Barry et Greenwich avaient déjà composé pour lui les immortels Dadu Run Run ou Be My Baby. Et quant à Do Wah Dédé Dédé, ça avait été créé aux États-Unis hein, par un groupe vocal noir new-yorkais, hein, un groupe mixte. Hein, il y avait trois filles et un garçon, un groupe qui s'appelait les Exciters. Mais la version qui s'est imposée tout autour du monde, c'est celle du groupe Manfred Mann qui avait été formé donc à Londres par des passionnés de jazz et de rhythm and blues noir. Et la particularité de Manfred Mann, c'était que contrairement à la majorité des jeunes formations de la période, ils avaient pour leader non pas un chanteur ou bien un guitariste, mais un organiste, Manfred Mann. Et c'est d'ailleurs lui qui avait donné son nom au groupe, un jeune homme qui, outre particularité, avait grandi et fait ses études en Afrique du Sud. Alors, Do Wah Dédé Dédé, c'est vraiment la pièce à conviction idéale à brandir pour qui aurait envie de dénoncer la niaiserie intrinsèque d'un certain rock'n'roll primitif. Alors, pouvait être, mettons, un amateur de jazz ou de musique classique étroit d'esprit, ça existe, hélas. Ou alors, vous pouvez jurer que par la chanson française à texte, ou encore, allons plus loin, pouvait être un amateur de rock'n'roll rebelle, révolté, ou de rock musicalement ambitieux. Alors, à vos oreilles, Do Wah Dédé Dédé, c'est l'exemple parfait de la nullité et de la niaiserie. Alors, les paroles, il faut le dire, ont l'air de sortir d'une cour de récréation. Hein, elles se baladaient dans la rue en chantant Do Wah Dédé Dédé et Dom Dédé Dou, claquant des doigts et balançant des jambes. Elle était à croquer, elle était chouette, j'en ai perdu la tête, etc., etc. Alors, c'est sûr, on est loin des poésies visionnaires de Bob Dylan ou de Jim Morrison. Ça me rappelle d'ailleurs un documentaire sur les débuts du rock'n'roll aux États-Unis, au milieu des années 50. Hein. Il ne faut pas perdre de vue qu'une majorité de gens voyaient à ce moment-là le rock'n'roll comme une mode absolument grotesque et de toute façon éphémère. Alors, dans ce documentaire, très intéressant, y a un passage tout à fait éclairant. Un monsieur très comme il faut, avec, je crois qu'il a un nœud papillon, enfin, il est un pupitre, et il fait pleurer de rire une assemblée de gens très sérieux comme lui, en débitant les paroles de la célèbre chanson de Jane Vincent, Bebop à Lola, comme si c'était un monologue shakespearien. Alors ça, c'est sûr, c'est facile, ça marche à tous les coups, et ça fait rigoler tout le monde. Alors moi, ce qui m'étonne dans tout ça, je parle évidemment à un des partisans du grand art et de la haute culture, en France comme ailleurs, c'est la chose suivante. Ils ont aucun mal, à admettre le génie pictural d'un Picasso, ou plus près de nous, d'un Jean-Michel Basquiat. Ils reconnaissent d'ailleurs, comment ne pas le reconnaître, comment ne pas l'admettre, que trouver de la beauté dans les balbutiements de l'enfance, c'est normal, hein, puisque ces peintres se sont inspirés de formes enfantines et primitives. Et d'ailleurs, la preuve que c'est estimable, c'est que ça se trouve aujourd'hui dans les musées. Alors vous me direz, c'est vrai, le rock'n'roll, depuis une vingtaine d'années, c'est difficile à dire, hein, je sais pas, c'est entré au musée. Mais ça reste un certain rock'n'roll qui est lié à la poésie, à la haute culture, à la littérature en général. Il suffit de voir le respect aujourd'hui qui entoure le Velvet Underground, un groupe autour duquel on a organisé des expositions dans de prestigieux musées ou fondations, ou encore la dévotion dont fait aujourd'hui l'objet une Patti Smith. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce rock'n'roll stupide, naïf, primaire, tout ce que vous voudrez, et ben c'est celui-là qui a été la source des premiers émois de Bob Dylan, de Lou Reed et de Patti Smith. Et ce rock'n'roll enfantin de Do Wa Didi Didi, ben c'est celui des cours de récréation, c'est celui des comptines pour enfants, ça transmet une exaltation un peu niaise. Oui, mais ça nous renvoie à nos premières émotions qui ne sont pas en tout cas passées par le filtre de l'intelligence, de la distinction, du bon goût et de la culture. Et parfois, eh ben, ce sont les plus belles émotions, les plus fortes en tout cas. Et je plains en tout cas ceux ou celles qui se croient supérieurs à ça. Un exemple au hasard. Allez, le groupe du sud de l'Angleterre, Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Teach. Oui, ça fait débile, je sais. Dédaigné par la critique, mais adoré par les enfants britanniques de l'époque, il a aligné une série de tubes entre 1965 et 1969. Dans un style facile et entraînant, avec des chœurs chantés à tue-tête, des effets sonores amusants et des rythmes exotiques. Alors Dave D était à l'origine un agent de police, et oui, bah, ça peut mener à tout. Cette chanson Hold Tight, qui évoque, vous l'entendrez pour les connaisseurs, la période psychédélique des Who, elle remonte à l'année 66, et vous la connaissez peut-être parce qu'elle a été utilisée dans une scène très mémorable du film de Quentin Tarantino, Death Proof, un boulevard de la mort. En tout cas, voilà, Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Teach, c'est à eux. Obscure pépite de l'année 1968, bon, au son un peu pourri, bon, il faut comprendre, hein, c'est très très obscur. Captain Groovy and his Bubblegum Army, signé par un certain Captain Groovy. Alors, qui était ce Captain Groovy, responsable de cette petite comptine ou relent de soul et de blues psychédélique? Honnêtement, je n'en sais strictement rien. Si on tape le nom Captain Groovy sur l'écran d'un moteur de recherche, sur la toile, bah, on tombe sur un restaurant de grillade ouvert dans la ville de Norfolk en Virginie. Alors je sais pas, c'est peut-être ce même Captain Groovy, chanteur, qu'il a ouvert, et puis 50 ans plus tard, peut-être que c'est toujours lui qui est au fourneau. Enfin, je sais pas, ça vaudrait en tout cas la peine d'enquêter, ce que je ne ferai pas malheureusement. Alors même si j'ai rien à vous dire sur Captain Groovy, j'ai deux ou trois choses à vous dire sur le bubblegum, enfin sur le rôle et la signification de ce terme dans l'histoire du rock. Alors le bubblegum, bien sûr tout le monde sait ce que c'est. C'est la grosse bulle qu'on fait quand on souffle à travers son chewing-gum. Oui. Mais ce mot a désigné aussi un courant très puissant dans le rock, enfin la variété américaine des années 67-69, un courant très présent dans les chansons du hit parade en tout cas. Alors on peut commencer par dire ce que le bubblegum n'était pas, c'est peut-être plus facile. Il n'était pas sérieux, il n'était pas ambitieux, il n'était pas profond, il n'était pas contestataire. Si vous voulez, c'est l'opposé de Woodstock, de Jimi Hendrix et même de Bob Dylan. Alors pas de quête, pas d'utopie, pas de rêve de changer le monde, non, il s'agit de taper dans ses mains, passer un bon moment et chanter à tue-tête des insanités avec un sourire jusqu'aux oreilles. Alors oui, dans le contexte politique révolutionnaire de l'époque, hein, à la fin des années 60, qui était marquée par le rêve hippie, l'embrasement des mouvements de jeunesse qui se voulaient révolutionnaires, eh bien évidemment le bubblegum, c'est l'ennemi, hein, des chansons futiles, niaises, et même, certains n'hésiteront pas à le proclamer, réactionnaires, parce que complices évidemment de l'ordre établi et du sommeil des masses. Et puis surtout pour beaucoup, alors là c'est l'insulte ultime, le bubblegum est commercial. Des chansonnettes ineptes, fabriquées à la chaîne, dans des usines à tubes, hein, comme ça peut exister aujourd'hui dans le R&B, par des musiciens anonymes. Alors, pour que vous fassiez votre propre idée, je vous propose d'écouter quelques échantillons de chansons bubblegum. Il a existé, donc, dans les années 67-69, une équipe de compositeurs et réalisateurs artistiques qui a incarné cette force-là, parce que c'en était une. Jerry Casenetz et Jeff Katz, c'était leur nom, à la tête de leur studio Super K, un super cas, ont fait travailler une petite armée de chanteurs et musiciens interchangeables à qui ils confiaient leurs compositions. Alors les groupes avaient des noms complètement délirants comme The 1910 Fruit Gum Company, hein, la compagnie de chewing-gum aux fruits de 1910 par exemple, et vous avez d'ailleurs entendu subrepticement une de leurs productions tout à l'heure entre Dave D et Captain Groovy, c'était Quick Joey Small, attribué aux Casenetz Cats Super Circus. Alors en voici une autre, Gimme Gimme Good Lovin', signée, elle, par l'improbable Crazy Elephant. Et juste après, promis, vous aurez droit au groupe The 1910 Fruit Gum Company en personne, dans son immortel Simon Says, hein, c'est l'équivalent de notre Jacadie. Mais tout de suite, sur France Inter, c'est Crazy Elephant.
Very Good Trip sur France Inter.
Yummy, 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 une production de l'équipe Casenet's Cats, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Cette chanson a été un tube pour le groupe Ohio Express en 1968. C'est un des multiples noms sous lesquels Casenet's et Cats diffusaient des chansons enregistrées avec plein de musiciens différents. Alors, yummy, 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 I've got love in my tummy, hein, miam, 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 j'ai de l'amour dans mon ventre. Ça a l'air tout innocent à première vue, mais après tout, ça n'était sans doute pas tant que ça. Casenet's Cats ont été les maîtres du bubblegum, dont sans doute le grand visionnaire, enfin celui qui tirait les ficelles, était le New-Yorkais Neil Bogart. Hein, il travaillait alors pour les labels Buddha et Cameo Parkway. Et avant de mourir jeune au début des années 80, Neil Bogart a eu aussi le temps de découvrir le groupe Kiss, et oui, c'était lui, et aussi, c'est pas rien, de lancer Donna Summer et, j'allais oublier, le groupe Village People. Beaucoup pour un seul homme, et d'ailleurs, si vous l'avez vu dans la série télévisée Vinyl, hein, Vinyl, produite par Martin Scorsese et Mick Jagger, eh bien Neil Bogart, c'est certainement une des sources du personnage de Richie Finestra, hein, le patron du label, incarné par le très bon acteur Bobby Cannavale. Alors dans le Bubblegum, il y a eu d'autres protagonistes aussi, hélas injustement oubliés. Parmi eux, il y avait Tommy James and the Shondells. C'est un groupe qui venait du Michigan et qui défendait alors à contre-courant un style sans prétention. Il avait quelque chose qui annonçait déjà le retour à la simplicité, enfin le désir du retour à la simplicité chez certains, une certaine innocence joyeuse. Et alors, après Tommy James and the Shondells, il y aura les Monkees, hein, dans leur classique de 67, I'm a Believer, une composition de Neil Diamond. Alors, deux mots sur les Monkees. Ce sont des garçons qui avaient été recrutés à Hollywood en 1965 par un cinéaste et producteur pour créer un feuilleton télévisé inspiré par les films des Beatles. Et comme ça, ça mélangeait des chansons très, très, très entraînantes à des scènes de comédie loufoque. Alors les Monkees étaient au début tous habillés pareil, un peu hein, comme les Beatles, avec des coupes au bol. Alors que à ce moment-là, les Beatles découvraient la méditation transcendantale en Inde, la musique indienne, tout ça, eh bien les Monkees, eux, ils continuaient à faire des chansonnettes entraînantes pour les enfants. Une autre expression, au fond, du bubblegum, mais tout de suite avant les Monkees, Tommy James and the Shondells dans I Think We're Alone Now, qui date de 67.
What they say when we're together, and watch how you play. Just a girl.
Sugar Sugar, un tube mondial en 1969. Je crois même que ça a été le plus gros tube mondial de cette année-là pour un groupe virtuel qui s'appelait les Archies. Alors, je dis virtuel, c'est pas un anachronisme. En fait, on n'a jamais connu le visage des Archies puisque leurs chansons étaient interprétées par des musiciens fictifs qui apparaissaient uniquement sous la forme de personnages de dessins animés et puis de bandes dessinées aussi, hein, je crois bien. Alors, imaginez, c'était plus de 30 ans avant le groupe imaginaire Gorillaz, hein, qui a été créé en 2000 par Damon Albarn avec le graphiste Jimmy Hewlett. Alors derrière les Archies, il y avait une équipe très organisée. Alors au sommet, vous aviez Don Kirshner qui était le puissant patron d'une maison d'édition musicale. Hein. C'est lui notamment qui sélectionnait et supervisait les chansons interprétées par les Monkees. Et puis au service des Archies, il y avait le compositeur Jeff Barry, hein, l'auteur de Do Wa Didi Didi entre autres. Et puis à l'ultime bout de la chaîne, il y avait le chanteur Ron Dante et une équipe de musiciens de studio, et c'est eux qui formaient les Archies. Alors Sugar Sugar, c'est vraiment un concentré de bubblegum, et pour cette raison, c'est le type de chanson qui, dans ces années-là, suscitait l'exaspération des amateurs de rock ou de folk sérieux. Et pourtant, l'illustre critique américain Lester Bangs, hein, celui-là même qui a célébré le Velvet Underground, Captain Beefheart et le jazz rock de Miles Davis aussi, eh bien, il a un jour proclamé sa tendresse pour le bubblegum des Archies, et je le cite, « Peut-être que cette innocence était calculée, mais la merveilleuse ironie de la chose, c'est que ça marchait, et que même si la plupart de ces groupes n'avaient jamais existé, leur tendresse était authentique et ils chantaient avec sincérité. » Eh bien, je saurais pas mieux dire. On continue avec deux tubes assimilés au bubblegum. Le premier remonte à l'année 67 et c'est Bend Me, Shape Me, interprété par un groupe de la banlieue de Chicago qui s'appelait The American Breed. Il en a donné une version, parce qu'il y en a d'autres en fait, qui étaient très proches, vous allez l'entendre, du style des Monkees avec des cuivres très entraînants. Et juste après, ce sera Dizzy, un tube en 69 pour un chanteur du sud des États-Unis, Tommy Roe, R-O-E, alors une mélodie facile, entêtante, un petit classique dans son genre. Alors une anecdote en passant, ce Tommy Roe a joué un rôle déterminant dans la carrière des Beatles aux États-Unis. Et voici comment, en 63, il était parti chanter en tournée en Angleterre avec les Beatles en première partie, et on l'imagine sans peine, bon, les Beatles lui avaient vite volé la vedette. Et de retour dans son pays, Tommy Roe, absolument enthousiasmé, a tenté de convaincre un responsable de sa compagnie disque, était ABC Paramount. Il lui a dit qu'il fallait offrir tout de suite un contrat aux États-Unis à ces Beatles pour les lancer dans son pays. Voilà. Et bien, ce visionnaire de l'industrie musicale déclara à Tommy Roe que de sa vie, il n'avait jamais rien entendu de plus mauvais que les Beatles. Et il lâcha l'affaire. Un génie, comme on en croise parfois dans sa vie professionnelle. Mais tout de suite, Bend Me, Shape Me, The American Breed. Daisy, c'était un succès pour l'américain Tommy Rowe en 1969. Alors le bubblegum, c'est une histoire sans fin. Il y en a chez ABBA, bien sûr, les Spice Girls, évidemment, mais aussi chez les Rolling Stones. Alors écoutez notamment She's a Rainbow, c'est clairement du bubblegum, certains titres de New Order et même Nirvana. En fait, il y a peu de groupes qui, à un moment ou à un autre dans leur carrière, ont résisté à cette envie d'une mélodie droite et percutante qui fait briller là les yeux des enfants. Alors au hasard, quelques autres exemples connus, d'autres moins, de bubblegum. Alors pour commencer, le groupe des Pays-Bas, Shocking Blue. Alors tout le monde, beaucoup le connaissent pour son tube de la fin 69, Venus. Et ce que moins de gens savent, c'est que Shocking Blue a pas mal inspiré Kurt Cobain de Nirvana, qui aimait autant les chansons et les mélodies que le bruit. Alors, Shocking Blue a signé en 72 un petit succès entre bubblegum et glam rock naissant qui s'appelle Ink Pot. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Juste après, un tube signé par Giorgio, c'est-à-dire l'Italien du Nord, Giorgio Moroder, l'homme qui, via les tubes de Donna Summer, a été le premier à introduire l'électronique dans la musique de danse. Mais son Son of My Father, qui remonte comme Shocking Blue à l'année 72, vous allez l'entendre, c'est un classique du bubblegum. Tout de suite, Shocking Blue.
Enjoy it, baby, to put the ink in the ink pot.
Alors, Fabrice Desmaz à la technique me dit que ça fait 20 ans qu'il travaille sur Inter, qu'il a jamais entendu ça à l'antenne. Stéphane Ronxin, je sais pas ce qu'il en pense, il a réalisé cette émission. Zora Ben Spindly au site internet et Romain Couture à la discothèque de Radio France, ils connaissent sans doute ça. Ben voilà, c'est tout pour, je voulais vous en faire écouter les Buggles, Video Club de Radio Star. C'est vraiment l'exemple parfait du bubblegum. À demain.